Privilège de pouvoir se réunir ensemble. Merci pour la liberté dans notre pays, Seigneur, de le faire d'une façon tout à fait publique, sans avoir à se cacher. Et on te rend grâce, Seigneur, pour la joie de pouvoir chanter tes louanges. Quel grand sauveur tu es. Et se joindre un peu aux Israélites d'antan qui attendaient la venue du Messie et qui disaient au Seigneur, envoie Emmanuel, envoie celui qui sera Dieu avec nous. Merci de l'avoir accompli, Seigneur, en Jésus-Christ. Et on peut chanter ce chant encore qu'on vient de chanter, Seigneur, en attendant sa seconde venue, où il va venir pour rendre justice sur cette terre, pour effacer le péché de nos cœurs et de ce monde. Merci, Seigneur, pour l'espoir que tu mets dans nos cœurs de ce grand jour qui vient, de pouvoir être avec toi éternellement. Merci, Seigneur, pour la période de l'Avent, pour la période de Noël, et on te prie qu'elle puisse être un temps de riche méditation pour nous tous, Seigneur, alors qu'on pense à la signification la plus profonde de Noël, celle de la venue de notre Sauveur. On te demande de bénir ce temps dans ta parole. Éclaire-nous par ton esprit, enseigne-nous. Sois celui qui parle aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus, on prie. Amen. Donc, on arrive dans la période de Noël. On pourrait dire, on est déjà en novembre. Comment ça, on est déjà dans Noël? Eh bien, parce que dans 4 dimanches, ça va être le 24 décembre. Alors, on va être arrivé, ça sera pas long. Et en passant à la période de Noël, ça me faisait penser à quand la première neige arrive à l'hiver. Ça fait 2 qu'on a, là. Souvent, ce matin, j'étais avec mon petit garçon, on regardait la neige dehors, puis il faisait... Oh. Puis je l'encourageais beaucoup, là, mais « Oh, wow! La belle neige dehors! » Alors, lorsqu'on est jeune, souvent, la première neige, bon, là, c'était 1 cm, mais quand on a une bonne bordée de neige, là, c'est tellement beau, c'est tellement sublime, on pense pas trop à devoir pelleter notre entrée ou déneiger notre auto. Mais souvent, au fur et à mesure, au fil de l'hiver ou peut-être au fil des années, la neige est de moins en moins symbole d'émerveillement et de plus en plus symbole de corvée et de travail à faire. Et en anglais, on a ce dicton qui dit « Familiarity breeds contempt ». Donc, la familiarité engendre le mépris. Avec la neige, c'est un peu ça. Quand on est habitué, éventuellement, on ne voit plus les bons côtés. Bon, souvent, c'est vrai dans le cas de la famille. Les gens de notre famille, on les connaît bien, on est familier avec eux et souvent leurs bons côtés, on peut avoir tendance à les oublier pour plutôt mépriser leurs défauts. Ou lorsqu'on attend un nouveau cadeau de Noël qu'on a bien, bien hâte d'avoir. Et lorsqu'on l'a, on est tellement content de l'avoir, un grand enthousiasme, ça peut être quelque chose de gros aussi, un déménagement, une nouvelle auto, le retour de la santé après un temps de maladie. Mais avec la familiarité vient souvent l'indifférence ou même le mépris. Et donc, comme toute bonne église dans le temps de Noël, on s'apprête à lire dans les prochaines semaines plusieurs des récits bibliques de la Nativité qui parlent de la naissance de Jésus. Et ces textes nous sont rendus assez familiers, et si ça fait longtemps qu'on va à l'église, tellement familiers qu'on ne les trouve peut-être plus tellement intéressants. Ou au pire, même ennuyant. Ah, pas encore ce texte-là. Je le connais si bien que je pourrais le réciter par cœur. Ah, pas encore un autre message sur ce texte-là. J'aurais pu faire une meilleure job que le prédicateur. Et on peut souvent déconnecter notre attention. On a déjà entendu ça tellement souvent que ça ne nous émerveille plus. Pourtant, il y a dans le cœur de Noël ce qu'il y a de plus merveilleux pour nous, la plus grande nouvelle pour notre monde, le fait que Dieu nous a envoyé un sauveur, et que ce sauveur était Dieu lui-même, qui est venu naître comme un bébé, s'associer à notre petitesse, le fait qu'on est des êtres très limités et finis, et même aller jusqu'à la mort pour nous racheter et ressusciter d'entre les morts. Alors, dans les prochaines semaines, on va revisiter des textes que si ça fait longtemps que vous êtes à l'Église, que vous avez entendus souvent. Cependant, on veut les revisiter, donc les deux premiers chapitres de l'Évangile selon Matthieu, mais sous une lumière très intéressante, à la lumière des prophéties qui y sont accomplies. Donc, Benjamin nous a lu Ésaïe 11 aujourd'hui. Ça ne sera pas il y a une grande section dans Ésaïe. En tout cas, je garde ça pour plus tard. Mais il y a toutes sortes de prophéties qui ont été accomplies et que l'évangéliste Matthieu, celui qui a écrit la biographie de Jésus qu'on appelle l'Évangile selon Matthieu, dans les deux premiers chapitres, à cinq reprises, il mentionne que des choses qui arrivent autour de la naissance de Jésus, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, ou une expression semblable. Et à cinq reprises dans ces deux chapitres, cette formule-là revient. Matthieu est là pour démontrer, et ce que Matthieu veut démontrer dans ces chapitres-là, c'est que la venue de Jésus est dans la foulée de l'annonce des prophètes. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu qu'il avait faite à son peuple des siècles auparavant. Alors, ces cinq prophéties accomplies, on va les couvrir en quatre dimanches, commençant par aujourd'hui. Donc, on va couvrir une prophétie par dimanche, puis le dernier dimanche, on va en couvrir deux. La dernière est un peu plus complexe, donc on a pensé qu'on raccourcirait ça. Donc, le nom de notre série, on a décidé de l'appeler « Noël annoncé par les prophètes ». Et les titres, ça va être très simple aujourd'hui, c'est « Noël annoncé par Ésaïe ». La semaine prochaine, c'est par Michée. L'autre semaine d'après, en tout cas ensuite, il y a Jérémie et Osée, qui sont ce sont nos quatre prophètes que Matthieu cite, que des prophéties qu'ils avaient écrites des centaines d'années avant étaient d'une certaine façon en train d'annoncer la venue de Jésus. Mais de quoi parlent les prophètes? Souvent, on connaît, si ça fait longtemps qu'on vient à l'Église, on connaît bien les Évangiles, on est familier même avec les citations de l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, on en est moins familier. L'année passée, on a couvert les livres d'Exode au Deutéronome ici à l'Église. Mais là, les livres prophétiques aussi, ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. Ils sont très longs, souvent. Ils sont compliqués à comprendre. Et c'est un peu plus facile de rester dans le Nouveau Testament, souvent. Mais en relayant les prophètes au placard, on est en train de perdre une grande richesse que le Seigneur nous a donnée dans sa parole. Voir comment il avait préparé l'avenue de son Messie et son plan du salut pour le monde. Alors, est-ce que les citations de Matthieu sont valides? Est-ce que c'est vraiment dans le contexte de ce que les prophètes étaient en train de dire? Ou Matthieu a fait un peu comme on peut avoir tendance à faire, et ouvert sa Bible, il pointe, et on lit le verset, « Ah, je vais extrapoler quelque chose que ça pourrait aller avec mon idée, puis dire, ah oui, la Bible le dit. » Ça, c'est de la très mauvaise interprétation biblique. Mais alors, certaines choses que Matthieu dit, ça peut nous sembler, on peut être un peu perplexe. On dit, en quoi ça c'est un accomplissement? Surtout si on retourne dans le prophète Jérémie puis dire, OK, en quoi ça c'est une prophétie de la venue de Jésus? Alors, c'est ça qu'on va faire dans les quatre prochaines semaines. On va retourner dans les livres prophétiques pour voir les citations que Matthieu fait, de quoi il était question et en quoi est-ce que c'est accompli en Jésus. Et ce dont on va se rendre compte, en comprenant mieux le contexte historique, littéraire et théologique de ces prophètes, on va en apprendre beaucoup plus que l'on pensait à propos de la venue du Messie premier. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile selon Matthieu. On va lire un de ces textes que vous connaissez peut-être très bien. L'Évangile selon Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Je vais lire Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors Marie, jeune femme, diraient même certains pensent qu'elle n'avait même pas encore 20 ans lorsqu'elle est tombée enceinte, lorsqu'on voit dans l'évangile de Luc que Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui annoncer qu'il la mettrait enceinte sans relation avec aucun homme, sans qu'il y ait quelconque matériel génétique, masculin qui vienne, mais le Seigneur pourvoirait à ça. On ne sait pas trop comment il l'a fait, mais elle est tombée enceinte. Et éventuellement, lorsqu'on est enceinte, elle n'était pas encore mariée. Elle n'était pas mariée avec Joseph, ils étaient fiancés. Et à ce moment-là, quand on était fiancés, ça durait un certain temps, mais on n'habitait pas ensemble. Et c'est seulement au moment des noces, mais les fiançailles avaient comme valeur légale de mariage. Pour briser des fiançailles, il fallait un divorce. Aujourd'hui, on peut briser des fiançailles sans divorce, ça n'a pas la même valeur, mais pour les Juifs, à cette époque-là, les fiançailles, c'était très fort comme union. Alors Marie s'est trouvée enceinte, et Joseph savait très bien que ce n'était pas lui. Et imaginez-vous un peu Joseph, la Bible ne nous donne pas de détails. Est-ce que Marie lui a annoncé qu'elle avait eu une vision d'un ange qui lui avait dit qu'elle tomberait enceinte et qu'elle est tombée enceinte? Est-ce que Joseph a éventuellement aperçu qu'elle était enceinte et d'autres aussi lui ont dit « Marie est enceinte » et qui s'est dit « Ben, elle m'a été infidèle, elle est allée avec le premier venu, puis... moi, ça ne m'intéresse plus de la marier. Et je le comprendrais. Et moi, comme fiancé, si ma fiancée tomberait enceinte et qu'ensuite elle venait me raconter « Ah, c'est Dieu qui a mis un enfant dans mon ventre. » Des fois, on peut être très spirituel et dire « Ah oui, Joseph était très spirituel. » Mais bon, si ma fiancée venait me dire ça, je dirais « Tu sais, je t'aime beaucoup, mais ça serait juste moins dur si tu me disais la vérité. » Alors, le Seigneur a eu pitié de Joseph. Et il ne lui a pas demandé d'être niais, de faire comme si de rien n'était. Mais le Seigneur lui a prouvé qu'il avait une mission toute spéciale pour Marie et lui. Et qu'effectivement, soit que Marie lui avait déjà dit, ou soit qu'il avait remarqué qu'elle était enceinte et ils n'en avaient pas parlé, mais que cet enfant-là ne venait pas d'un homme. Cet enfant-là avait été placé dans son sein par le Saint-Esprit de Dieu. Et il avait une mission toute spéciale pour eux, d'élever cet enfant, celui qui deviendrait le Sauveur, le Libérateur d'Israël. Et si Jésus est bel et bien celui qu'il annonçait être, Dieu fait homme, ce n'est pas surprenant que son arrivée dans le monde se fasse comme personne avant lui. Et du fait qu'il n'y a pas eu d'homme qui a été impliqué dans sa conception, Jésus a été épargné de la tâche d'Adam. De notre tendance, notre nature pécheresse à chacun d'entre nous avec laquelle on est dans ce monde, avec laquelle on est pécheur et qu'on pêche volontairement et involontairement. Mais il nous fallait un sauveur pour que ce soit un sauveur qui puisse vraiment nous racheter, qui puisse mourir à notre place, porter notre condamnation à notre place. Il fallait que ce soit un sauveur parfait, exempt de péché. Et Jésus, par cette conception miraculeuse, n'a pas été atteint par le péché originel. Et l'ange Gabriel dit à Joseph qu'il va être Jésus le Sauveur. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Et ensuite, l'évangéliste Matthieu rajoute, « Tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est peut-être un peu intéressant de savoir que Jésus, ensuite, il n'est pas appelé Emmanuel. Dans le restant de l'Évangile selon Matthieu, dans le restant des textes du Nouveau Testament, on ne voit pas Jésus qui est appelé Emmanuel. Mais le sens du mot Emmanuel est ô combien vrai en Jésus. Celui qui est Dieu est venu habiter parmi nous. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme pour venir marcher parmi nous, vivre parmi nous, avoir faim, avoir soif, être malade, être trahi, mourir à notre place et ressusciter des morts. Alors, je vous invite à ce qu'on retourne dans le passé, encore plus dans le passé. Ça, c'était il y a 2000 ans, mais on va retourner un autre 700 ans avant pour voir c'est quoi cette prophétie d'Ésaïe à propos d'une vierge qui tombe enceinte, qui va mettre au monde un fils qu'on va appeler Emmanuel. Alors, je vous invite à reculer dans votre Bible jusqu'à Ésaïe, le prophète Ésaïe. Alors, Ésaïe, c'est le premier livre des prophètes dans l'Ancien Testament. Il se situe après les livres poétiques, donc après les psaumes, proverbes, Cantique des Cantiques, puis l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et ensuite on arrive à Ésaïe, qui est le premier livre des prophètes. Dans l'Ancien Testament, on a trois grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Leurs livres sont très longs, et on a 12 petits prophètes, dont les livres sont plus courts. Donc, grand, petit, ça n'a pas rapport à leur taille, mais ça a rapport à la longueur du livre qu'ils ont écrit. Alors, Ésaïe était un prophète de Dieu. Donc, oui, prophète voulait dire qu'il prédisait l'avenir, mais ça voulait surtout dire qu'il était un porte-parole de Dieu, qu'il parlait au nom de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui l'inspirait. Alors, on retourne dans Ésaïe 7. Et à ce moment-là, c'est une section du livre d'Ésaïe, Ésaïe 7 à 12, qui se situe dans le livre d'Ésaïe juste après l'appel d'Ésaïe. Ésaïe 6, c'est peut-être un passage que vous connaissez, où c'est l'appel d'Ésaïe. Il a une vision de Dieu dans le temple et Dieu l'appelle à être son messager, son porte-parole. Et Ésaïe 7 se passe, si vous regardez, au verset 1, dans Ésaïe 7, ça dit « À l'époque d'Akaz, fils de Jotham, lui-même fils d'Ozias, qui était roi de Juda, Retsin, le roi de Syrie, monta avec Pekah, le fils de Remalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. » OK, on a des rois, on a des empires, on a une époque qui... on n'est pas trop au courant. C'est qui ces personnes-là? Donc, Akaz, je recule un petit peu, le plus grand roi d'Israël a été David, ceux à qui Dieu a fait une promesse d'avoir qu'il y aurait toujours un descendant, un de ses descendants, sur le trône d'Israël. Et cependant, après la venue de Salomon, Salomon, le fils de David, s'est tourné vers les autres dieux. Le Seigneur a dit qu'il allait briser son royaume. Et lorsque son fils, Roboam, est venu au pouvoir, Dieu a brisé le royaume d'Israël, les 12 tribus en deux. Donc, la descendance de David s'appelle Juda. Leur royaume, ils allaient avoir juste deux tribus dans le sud. Les tribus de Juda et Benjamin, qu'on appelle le royaume de Juda. Et les 10 tribus d'Israël du nord sont, on l'appelle Israël, ou Éphraïm, parce que c'est la plus grosse. Alors, ce royaume-là est vite devenu idolâtre. Alors, son premier roi, Jéroboam, a fait construire des veaux d'or, et il n'y a pas vraiment eu de rois d'Israël qui ont été des bons rois. Les rois de Juda, parfois des bons rois, parfois pas des bons rois. Puis là, à cette époque-là, Akaz était le roi de Juda. Et Akaz était pour Juda à peu près l'équivalent de Akab pour Israël. C'est-à-dire pas mal le pire roi de Juda qu'il y a eu. Akaz, dans 2 Rois 15, on voit qu'il qu'il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, donc aux autres dieux qu'à l'Éternel, sur les collines, sous toute arbre vert. Et même, il est allé imiter un autel qui avait été bâti en Syrie pour en faire construire un identique dans le temple de Jérusalem, pour offrir tous les sacrifices, non plus sur l'autel que Dieu avait prescrit, mais sur un autre autel que lui trouvait plus beau ou plus le fun qu'il avait vu en Syrie. Donc, allant complètement à l'encontre de ce que le Seigneur avait ordonné pour les sacrifices pour le temple à cette époque-là. Et ce qui est dit dans 2 Rois 16, au verset 3, à propos du roi Achaz, c'est dit « Il marcha sur la voie des rois d'Israël. » Ah, ça, c'est pas un compliment, hein? Et ça dit ensuite « Il fit même passer son fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédé devant les Israélites. » Alors, je pense que c'est le seul roi de Juda qu'on voit ça, qu'il a fait brûler de ses enfants pour avoir des bénédictions des dieux cananéens. Alors, Achaz n'était certainement pas quelqu'un qui craignait l'Éternel. Il y a eu d'autres rois de Juda que c'était leur cas. Mais Achaz, lui, il n'en avait pas grand-chose à faire de l'Éternel. Du moins, pas de l'honorer comme l'Éternel l'avait demandé. Il voulait le faire à sa façon. Mais à cette époque-là, le roi du royaume d'Israël, qui s'appelait Pekah, fils de Remalia, et le roi de Syrie, un autre royaume tout proche, ce roi-là s'appelait Retsin, ont fait une alliance ensemble. Est-ce qu'on peut montrer la prochaine diapo? J'ai mis une carte de l'époque. Wow! Alors ça, c'est le fun. Israël, on est ici. Jérusalem n'est pas là. Jérusalem est là, la capitale de Juda. Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël. Donc, Israël se situe ici, la Syrie, ici, avec Damas. Donc, eux, ils ont fait une alliance ensemble. Pourquoi ils ont fait une alliance? Parce que l'Empire assyrien est là. Et l'Empire assyrien était la puissance mondiale de l'époque. L'Égypte l'avait déjà été. C'est comme l'Empire romain de leur époque. Alors, l'Empire assyrien, s'était énormément agrandi. Il est même allé jusqu'à repousser l'Égypte jusque chez lui. Ensuite, il y aurait les Babyloniens et les Perses. Ces différents empires qui ont été là à l'époque. Mais là, l'Empire assyrien était l'empire dominant du Proche-Orient ancien. Et le roi d'Israël et le roi de Syrie voulaient faire une alliance ensemble pour être capables de combattre le roi d'Assyrie. Cependant, Achaz, notre roi de Juda, à Jérusalem, lui n'en voulait pas de leur alliance. Lui, il voulait demeurer soumis au roi d'Assyrie. Alors, ce que Pekak et Retsin ont décidé de faire, ils ont voulu attaquer Achaz, ils ont voulu attaquer Jérusalem pour défaire Achaz, probablement le tuer ou s'en débarrasser, et le remplacer par un roi qui ferait partie de leur coalition contre les Assyriens. Alors, notre prophète Ésaïe arrive dans tout ce contexte-là. Et il va dire à Achaz, le roi de Juda, qui n'est pas quelqu'un qui craint Dieu, il lui dit de ne pas craindre ces deux rois qui viennent l'envahir, qui viennent l'attaquer. Et il lui dit de ne pas s'appuyer sur l'Assyrie. Parce que ce que notre ami Achaz a le goût de faire, c'est de demander de l'aide aux Assyriens pour qu'ils viennent l'aider contre ceux qui l'attaquent. Et Ésaïe lui dit, « Ne te confie pas en des hommes, confie-toi en l'Éternel. » Et là, avec ce prélude historique, on va lire Ésaïe 7 jusqu'au verset 9. Alors au verset 2, ça dit, « On annonça aux membres de la dynastie de David, » ça c'est Achaz, la cour royale, « Les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. » Éphraïm, c'est le royaume d'Israël. Donc, les Syriens s'en viennent, ils vont attaquer Jérusalem. « Achaz et son peuple en furent tous secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. » Alors, l'Éternel dit à Ésaïe, son prophète, « Sors donc à la rencontre d'Achaz avec ton fils Shéar et Achoub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, « Sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie, ainsi que du fils de Remalia. Ne sois pas troublé parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent « Montons contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous un passage et proclamons-y roi le fils de Tabéel. » Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. « Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et Rétine le souverain de Damas, mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm et le fils de Ramalia, le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Intéressant. Et ensuite, on continue. Verset 10. L'Éternel dit encore à Akaz, « Demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. » Alors, je fais une pause ici. Selon tout ce que le livre des Rois nous dit d'Akaz, cette phrase-là n'est probablement pas une phrase pieuse de sa part. Et il cite Deutéronome qui dit « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. » Mais là, ce n'est pas que Akaz lui-même décide « Dieu, tu dois m'envoyer un signe. » Non, Dieu dit à Akaz « Demande un signe et je vais te prouver que ma parole est vraie. » Et Akaz dit peut-être essentiellement « J'en ai pas besoin de ton signe, j'en ai pas besoin de tes prophéties. » Alors, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va donner un signe quand même à Akaz. Akaz, il dit, « Non, non, j'ai pas besoin de signe. » Il se dit pas vraiment, « Je crois ce que l'Éternel dit. » Non, ça le dit pas, remarqué. Hein? Il dit juste, « Je vais pas provoquer l'Éternel. » Mais Isaïe continue, au verset 13, il dit alors, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes, les deux rois, sera abandonné. » Intéressant. Alors ça, c'est notre prophétie de l'Emmanuel à venir, que Matthieu cite. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe était vraiment en train de dire ici? Est-ce qu'il parlait seulement de Jésus à venir? Parce que ça fonctionne, et certainement ce texte-là fonctionne avec la venue de Jésus. Il dit, la Vierge va devenir enceinte, elle va mettre au monde un fils, il va se nourrir de lait caillé et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal, choisir le bien. Donc, dans sa jeunesse, avant sa jeunesse, là, dans sa jeunesse, les deux rois dont tu as peur, Akaz, leur royaume vont être lavés. Alors, certainement qu'avant la venue de Jésus, ces choses-là se sont produites. Parce que dans les années qui ont suivi, 2 ans après cette époque-là, le roi d'Assyrie est venu, a assiégé Damas, a conquis Damas. Et une dizaine d'années plus tard, est venu faire le siège à Samarie, et a complètement détruit Samarie, a amené tous les habitants beaucoup des habitants des 10 provinces du Nord en exil en Samarie. Et ça, c'était à cause de décennies et de siècles d'idolâtrie et de désobéissance des Israélites qui habitaient dans ces tribus-là. Alors, les interprètes ne sont pas certains. Est-ce que Ésaïe parle seulement de Jésus à venir ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Alors, je pense que le texte qui va suivre, on va continuer dans Ésaïe 8, nous mentionne que peut-être qu'on a un double accomplissement de prophétie. Alors, on a un premier accomplissement qui va arriver proche, un enfant qui va naître tout près, dans ces années-là, où ça se passe. Et ça préfigure la venue d'un autre enfant, qui serait né pas seulement d'une jeune fille, mais d'une vierge, pour vrai. Parce que le terme qui est traduit dans « vierge » dans ma Bible au verset 14, Ésaïe 7, 14, est un terme qui peut vouloir dire soit jeune fille, soit vierge. C'est une jeune fille que normalement on prendrait pour acquis qu'elle est vierge, mais ce n'est pas nécessairement 100% qu'elle est vierge. Mais qu'elle est une jeune fille. Alors, je vous invite à continuer avec moi dans Ésaïe 8 et on va voir, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre enfant qui serait cet Emmanuel-là, qui, dans sa jeunesse, avant qu'il ait quelques années, l'Éternel apporterait la destruction sur les deux nations qui faisaient peur à Akaz. Ésaïe 8, je lis à partir du verset 1. L'Éternel m'a dit, « Prends un grand cylindre et écris dessus avec un burin ordinaire à Maher Shalal Hashbaz, ou bien vite au pillage, en hâte au butin. Je veux prendre pour témoin deux hommes dignes de confiance, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je me suis uni à la prophétesse. » Ésaïe parle de sa femme ici. Elle est tombée enceinte et a mis au monde un fils. L'Éternel m'a dit, appelle-le vite au pillage, en hâte au butin. Appelle-le Maher Shalal Hashbaz. En effet, avant que l'enfant sache dire papa, maman, on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin pris à Samarie. Alors ça, c'est intéressant. Ésaïe et sa femme, elle est tombée enceinte d'un autre enfant. Ils avaient déjà un enfant qui s'appelait Shear Yashub, qu'on l'a vu dans Ésaïe 7, verset 3. Ça veut dire « un reste reviendra ». Le nom de ce fils de Ésaïe préfigurait le jugement de Dieu sur Israël, sur Juda, surtout sur Juda, et le fait qu'il y aurait une restauration. Un jour, un reste reviendrait. À l'époque d'Esdras et Néhémie, les Juifs apportés en déportation à Babylone allaient revenir. Et là, il y a un deuxième enfant, un deuxième fils qu'ils ont, et Dieu leur dit de l'appeler un nom qui va être un symbole aussi, un signe pour leur génération. Un nom qui veut dire « vite au pillage, en hâte au butin ». Ça signifie que la Syrie va venir conquérir Damas, piller Samarie, avant même que cet enfant-là sache dire « papa, maman ». Donc avant et dans les deux prochaines années, ou le temps de la grossesse, bon, peut-être dans les trois prochaines années, Damas va tomber, puis la Samarie va être pillée. Et c'est exactement ça qui s'est passé. On voit dans le 2 Rois 17 que les Assyriens ont fait un siège à la ville de Samarie, qu'ils l'ont pris trois ans plus tard. On voit aussi dans les inscriptions cunéiformes des Assyriens, des fouilles archéologiques qui ont été trouvées, que le royaume du nord d'Israël a été mangé en grande partie dans l'année qui a suivi cette prophétie-là d'Ésaïe et que Damas est tombé deux ans plus tard, environ en 732 avant Jésus-Christ. Alors ces prophéties-là annoncées par Ésaïe et dont les noms de ses enfants étaient des symboles se sont accomplis. Et le Seigneur annonce qu'il y aura aussi un jugement pour Juda, le roi Akaz, s'il n'écoute pas Dieu. Je vais lire encore quelques versets dans Ésaïe 8, à partir du verset 5. « L'Éternel m'a encore parlé, il a ajouté, « Puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé, qui coule doucement, et a éprouvé de la joie en pensant à Retsin et au fils de Remalia, nos deux rois dangereux, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera, et ce jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire, Emmanuel. Poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointain. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas. Car Dieu est avec nous. » Ou en hébreu, « car Emmanuel ». Wow, pas évident à comprendre toutes ces choses-là. Cette histoire-là, ces textes-là. Alors, encore deux autres endroits, en parlant de l'envahissement de l'Empire d'Assyrie, le terme « Emmanuel » revient. Dieu est avec nous. Au verset 8, ça fait peur. Dieu est avec nous et il amène le jugement d'Assyrie. Donc Dieu amène le jugement contre nous. Sa présence est une présence de jugement. Eh bien, au verset 10, là, Dieu s'adresse aux Assyriens, les peuples lointains qui se préparent au combat, mais qui vont être brisés. Il dit, « Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. » La présence de Dieu pouvait autant être une présence de jugement qu'une présence de protection. Dans les prochains chapitres, la fin du chapitre 8, les chapitres 9 et 10 d'Ésaïe, il y a des annonces de jugement contre Israël, des annonces de jugement contre la Syrie même. La Syrie qui va envahir et qui va être extrêmement violente et qui va s'enorgueillir, le Seigneur lui dit, « Eux aussi, vous allez être abaissés. Je vais en amener un autre empire qui va venir vous dominer. » Alors, ces prophéties, à l'époque d'Akaz que Ésaïe a dites, ont été accomplies. Cet Emmanuel-là, c'était fort probablement le deuxième fils d'Ésaïe, Maher Shalal Hashbaz, vite au pillage en hâte au butin. Mais, comme on va voir dans d'autres passages, je vais lire juste quelques autres textes dans cette section du livre d'Ésaïe, cet Emmanuel-là, on dirait que c'est comme quelqu'un d'autre. C'est un descendant de David, quelqu'un qui s'en vient. Benjamin nous a lu tantôt le chapitre 11 d'Ésaïe, qui est dans cette section-là du livre. Et là, c'est pas le fils d'Ésaïe qui est venu être cette personne-là, le rejeton d'Ésaïe. Non, là, on parle d'un roi de la descendance de David. Je vous invite à aller un petit peu plus loin dans Ésaïe 8, au verset 23. Bon, je vais le couvrir rapidement. Donc, le territoire d'Israël ici a été dévasté lorsque la Syrie est venue les envahir quelques années plus tard, une dizaine d'années après. Et ces territoires-là sont demeurés, le texte dit dans Ésaïe 8, là, à la fin 23 jusqu'à 9-4, que ce territoire-là qui était dans les ténèbres, le territoire de Zabulon et de Nephtali, ils ont eu des moments angoissés. Eh bien, les ténèbres ne régneront pas toujours à ces endroits-là. Il annonce, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Ça, c'est un texte que Matthieu cite un peu plus tard, dans Matthieu 4, pour parler du ministère de Jésus en Galilée. Alors, ce n'est pas le fils d'Ésaïe là, qui vient apporter la lumière en Ésaïe. Ça, c'est en Israël, dans le territoire du nord de l'Israël. C'est quelqu'un d'autre qui va arriver plus tard. Et au verset 5, un texte qu'on lit souvent à Noël, Ésaïe 9, versets 5 et 6. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. » On a un descendant de David qui va arriver. Et ce n'est pas le fils d'Akaz qui va être ce grand roi-là. C'est un descendant qui allait venir beaucoup plus tard. Un qui serait le fils de David. Je continue un autre texte. Dans Ésaïe 11, bon, les versets 1 à 16 que Benjamin a lu tantôt. Je ne vais pas les relire, mais au verset 1, ça parle d'un rameau qui pousse de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines qui va porter du fruit. Ésaïe, c'était le père de David. Donc, quand on parle d'un rejeton d'Ésaïe, on parle de David en parlant de son père. Donc, évidemment, si c'est un descendant de David, c'est un descendant de son père aussi, de Ésaïe. Et un descendant de David qui va venir, qui va être rempli de l'Esprit de Dieu au verset 2, qui va prendre plaisir dans la crainte de l'Éternel, qui ne va pas juger sur l'apparence, il va juger les faibles avec justice, corriger les malheureux, la terre avec droiture, Il va apporter le jugement aussi, il va faire mourir le méchant. Et ensuite, les versets 6 à 9, on a une vision céleste des animaux qui ne sont pas censés être ensemble, qui sont ensemble. Le lion et l'agneau, le loup et l'agneau vont habiter ensemble et le loup ne va pas vouloir manger l'agneau. La panthère va se coucher avec le chevreau, ne voulant pas la manger. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse vont vivre ensemble. Un jeune garçon les conduira. Est-ce qu'il va vraiment avoir des animaux au ciel? Je ne suis pas 100% certain. Je ne pense pas que c'est ce que ce texte-là nous annonce. Mais il nous annonce un temps de paix. Un temps de paix comme ça n'existe pas dans ce monde-ci. Tu ne vas pas avoir un lion avec un agneau, puis que le lion, il va manger de la paille. Le lion va manger son agneau. Son ami agneau à côté de lui quand il va avoir faim. Mais il y a un temps qui vient où Dieu va apporter la paix dans ce monde-ci à un point tel que c'est comme si même les animaux qui normalement se mangeraient ne se mangeront plus. Les guerres de ce monde, la chicane, les conflits, la discorde vont être terminés. Le fils d'Isaïe va apporter la paix sur la terre. C'est pour ça qu'on va l'appeler le prince de paix. Il va apporter un règne universel et éternel de justice et de paix. Il va ramener les Israélites à Dieu. Ça va être un nouvel exode, comme semblable au retour d'Égypte qu'on voit à la fin du chapitre 11. Alors, je vous lis, c'est vraiment intéressant, au verset 15. « L'Éternel fendra le golfe de la mer d'Égypte et menacera l'Euphrate. » L'Euphrate, c'est ça, ces deux fleuves-là, c'est le Tigre et l'Euphrate en Assyrie. Il menacera l'Euphrate en soufflant avec force. Il le partagera en 7 canaux et l'on pourra y marcher en sandales. Ça fait allusion à quand les Israélites sont sortis d'Égypte sous Moïse. Dieu a soufflé un grand vent, la mer des gens s'est séparée, ils ont pu marcher en sandales, sans être mouillés. Bien, le Seigneur, il dit, mon peuple qui va avoir été déporté en Assyrie, je vais ouvrir le fleuve, ils vont pouvoir revenir. Alors, c'est du langage métaphorique pour dire, je vais démontrer ma puissance, je vais ramener mon peuple de l'exil. Il y aura une route pour le reste de son peuple, pour ceux qui seront restés en Assyrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte. Alors, on a beaucoup de choses qui se superposent ici. Notre frère, anciennement pasteur de cette église, René Frey, disait que ce genre de prophétie-là, c'est comme regarder une chaîne de montagne. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça faire de la randonnée en montagne? La randonnée en montagne, c'est le fun. Faut être en forme, par contre. Alors, quand on voit une chaîne de montagne, ou des fois, si on arrive en haut de notre belvédère, on a marché pendant une heure ou 45 minutes, si c'est une petite marche, ou ça peut être, on a fait une marche de 12 heures pour arriver au sommet. Et là, quand on arrive au sommet, on peut avoir une vue absolument incroyable. Et la plupart des marcheurs trouvent que ça vaut la peine, non seulement pour l'exercice, mais pour la beauté de la vue qu'on observe une fois qu'on est rendu au sommet ou au belvédère. Et là, si on est dans un endroit où il y a des montagnes, on peut voir des montagnes un peu partout. Et ça peut être difficile de distinguer, lorsqu'on regarde au loin, quelque chose qui peut sembler une chaîne de montagnes, des montagnes l'une à côté de l'autre, si on envoyait notre drone pour filmer par-dessus, on se rendrait compte, cette montagne-là avec l'autre qu'on voyait, ils avaient de l'air proches. Ça a l'air d'être ça, mais si on voit de côté, ils sont vraiment distancés. Il y a une grande distance entre les deux. Ce qui, de loin, ça semblait proche, lorsqu'on s'approche, l'autre montagne est beaucoup plus loin. Alors, c'est de telles prophéties, des prophètes parlent de l'ère messianique, de la venue du Messie, en mélangeant un peu la chronologie. Oui, ils voient comme de loin beaucoup de choses qui vont se passer. Et Jésus est venu rempli de l'Esprit. Jésus est venu guérir les malades. Mais cette section-là, avec le lion et l'agneau qui habitent ensemble, sans que le lion veuille manger l'agneau, ce n'est pas encore arrivé, ça. Ça, c'est... On attend la deuxième venue de Jésus pour que ça arrive. Puis, une partie de ça parlait du retour des Israélites d'exil. Donc, il y a comme un triple accomplissement. Le retour des Israélites d'exil, à l'époque d'Esdras et Néhémie dans l'Ancien Testament, la première venue de Jésus son ministère terrestre il y a 2000 ans, et sa deuxième venue, celle qu'on attend encore, où il va apporter pour vrai, finalement, la justice et la paix sur cette terre. Alors, pour conclure un peu tout ce qu'on vient de voir dans Ésaïe, Matthieu, lorsqu'il citait ce passage d'Ésaïe, qui parlait de la jeune fille ou la vierge qui deviendra enceinte, qui porterait un enfant qui s'appellerait Emmanuel, eh bien cet enfant-là, dans tout le contexte de cette section-là d'Ésaïe, Ésaïe 7 à 12, c'est plus qu'un verset. C'est un descendant de David, quelqu'un de puissant, quelqu'un de juste comme aucun roi possible, quelqu'un qui serait rempli de l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui viendrait apporter un règne éternel de justice et de paix. Alors Matthieu, lorsqu'il citait Ésaïe, était en train d'englober tout ça, en citant un verset pour... Et les Juifs connaissaient très bien le livre d'Ésaïe, pouvaient certainement identifier « Ah, c'est de cette section-là du livre d'Ésaïe qui parle. » Les chrétiens dirent « Waouh, c'est vrai. » Toutes ces promesses-là, à propos de cet Emmanuel, ce roi David à venir, ça s'était accompli en Jésus-Christ. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? J'aimerais terminer avec 5 rapides applications qu'on trouve dans Ésaïe 12, notre dernier petit chapitre de cette section-là d'Ésaïe, par rapport à Jésus. Bien, moi, je veux qu'on les applique par rapport à Jésus, avec le début de cette période des fêtes qui arrive. Alors, Ésaïe chapitre 12, au verset 1. Ça, c'est une prière de reconnaissance. Il dit, « Ce jour-là, tu diras, je te célèbre éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. » Alors, je vais arrêter là. La première application, c'est quel genre d'Emmanuel est Jésus pour toi? On voit dans Ésaïe 8 que Emmanuel, ça pouvait être symbole de jugement et de malédiction. Dieu est avec nous, qui nous protégera de lui? Mais Emmanuel, pour celui qui se réfugie sous la croix de Jésus, Dieu est avec nous, c'est un symbole de protection, de restauration. Jésus a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. « Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Jésus est venu pour être celui qui souffrirait le jugement de Dieu à notre place, ce qu'il a subi à la croix. Et ça, il l'a subi, il l'a souffert pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui reconnaissent leur état d'indignité devant Dieu, qui se détournent de leur propre façon de faire leur vie, qui soumettent leur vie à Dieu et le font avec confiance que Jésus a tout payé à notre place, que Jésus a couvert complètement la colère de Dieu, que nous n'avons plus à vivre aucunement sous la peur du jugement de Dieu parce qu'il a été porté pleinement. Les textes nous disent que Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie, jusqu'au fond du vin, jusqu'au fond de la bière. Une bière sur lit ou un vin sur lit, il l'a bu jusqu'au complet. Alors, si tu vis sous la croix de Jésus, il n'y a plus de colère. Tu n'as plus à avoir peur. Tu peux au contraire t'approcher de Dieu avec grande assurance. Jésus a tout payé pour nous. Alors, la première application, c'est est-ce que tu t'attends au jugement de Dieu ou est-ce que tu vis sous sa protection? Deuxièmement, confie-toi en l'Éternel. Le roi Achaz, le roi de Jérusalem, de Juda, a décidé de ne pas faire confiance à Dieu, malgré les paroles d'Ésaïe. Achaz a envoyé une lettre au roi d'Assyrie et lui a fait envoyer tout l'or et l'argent qu'il était capable. Il a vidé tout le temple. Il a vidé son palais de tout ce qu'il avait de précieux. Il a envoyé ça au roi d'Assyrie. On voit ça dans 2 rois 16. Il dit, « Je suis ton fils, je suis ton serviteur. Viens à mon secours. » Et le roi d'Assyrie dit, « Oh, d'accord. » Et le roi d'Assyrie est venu. Et c'est dans ce contexte-là que le roi d'Assyrie est venu chercher, est venu conquérir Damas et Israël. Cependant, ça, c'est comme prendre un tigre par la queue. C'est utile peut-être pour un certain temps, mais éventuellement, le tigre, il s'est reviré contre le royaume de Juda. Et ça parlait de la Syrie comme un grand fleuve qui se répand, puis que Juda en aurait jusqu'au cou, là. Dans Ésaïe 36, un des successeurs du roi d'Assyrie de cette époque-là vient à Jérusalem, et ça prend un miracle incroyable de Dieu qui envoie un ange de la mort parmi les Assyriens pour pas que Jérusalem tombe. Alors Akaz, qui a décidé de placer sa confiance en des êtres humains au lieu de placer sa confiance en Dieu, ça n'a pas amené des bonnes choses pour lui à long terme ou pour son royaume. Le verset 2 d'Ésaïe 12 dit « Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel, est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Dans les choses que tu vis aujourd'hui, dans les choses qui t'inquiètent, dans les choses qui te stressent, Dieu t'invite à placer ta confiance en lui, à ne pas la placer en toi-même, à ne pas la placer dans ton intelligence, dans tes stratagèmes politiques un peu à la Akaz, mais de placer ta confiance en Dieu. Et on peut dire, comme Ésaïe, « Oui, l'Éternel m'a sauvé. C'est lui qui est ma force et le sujet de mes louanges. » Ce texte, comme l'exemple d'Akaz, nous invite, ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes, en des êtres humains, plaçons notre confiance en l'Éternel. Troisièmement, verset 3, il dit « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. » Avec cette période de Noël qui approche, je nous invite à regarder plus que les fêtes, puis la bouffe à préparer, puis les cadeaux à acheter, puis les comptes de carte de crédit qui vont arriver en janvier. Et de ne pas chercher notre joie dans ces choses-là, mais de chercher notre joie ultime dans celui que Noël est censé célébrer après tout. La venue de notre Sauveur, celui qui est venu être le libérateur pour Israël et pour le monde entier. Quatrièmement, au verset 4, faites connaître le salut de Jésus au peuple. Le verset 4 dit, vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. À l'approche de Noël, quelle bonne opportunité, pas de façon moralisatrice, pas en tapant sur la tête de qui que ce soit, mais de pouvoir partager le grand espoir, la grande joie qu'est Noël pour nous, de le partager au peuple, de le partager aux gens qui sont autour de nous. Faisons comme Ésaïe, faisons connaître la grandeur de Dieu parmi les peuples, parmi ceux qui nous entourent. Cinquième et dernière application, les versets 5 et 6, chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie. Exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors qu'on va chanter des chants de Noël ici à l'église, que vous allez peut-être faire jouer de la musique de Noël chez vous, que vous allez en entendre dans les centres d'achat, et souvent des chants qui racontent l'Évangile, qui racontent la venue du Sauveur, mais que c'est devenu du folklore, et peut-être que pour vous, c'est devenu un peu du bruit de fond. Mais je nous encourage, à travers ces chants de Noël qu'on va chanter, qu'on va entendre à la radio, qu'on va faire jouer chez nous, chantons l'Éternel à travers ces cantiques de Noël. Adorons le Sauveur qui est venu pour nous racheter, nous délivrer de nos péchés. Jésus, le fils de Marie, celui que Joseph a adopté et en a ainsi fait un descendant de David. Alors que la lumière que Jésus est venu être à Noël viennent briller sur vos vies et sur vos cœurs dans cette période de l'Avent qui commence cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse.